Le problème avec la notion de nation, c'est qu'on oublie souvent ses fondations. Vous savez comme il est de bon ton de la glorifier, la nation, aujourd'hui, en Europe, mais aussi en Chine, en Russie, aux États-Unis, dans le monde entier, on la revendique, on la défend, on la protège, la nation, contre l'étranger, qui au mieux est un danger, au pire un ennemi. Et c'est tout le paradoxe du nationalisme, à mon avis. Quand cette notion de nation apparaît dans le débat intellectuel au XIXe siècle en France, c'est un principe progressiste qui ne repose pas vraiment sur les frontières naturelles, certainement pas sur les frontières religieuses ou même sur les origines de chacun, mais sur l'histoire, la culture, la langue. L'historien Ernest Renan, dans ce court texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» et qui est une conférence prononcée à la Sorbonne en mars 1892, dit que c'est un mélange. On insiste en fait sur le fait que la France est un pays de métissage depuis la chute de l'Empire romain, la variété et la diversité des ethnies dont elle est composée. Il a cette phrase, Ernest Renan, qu'il faudrait écrire sur tous les frigidaires, à mon avis. Le français n'est ni un Gaulois, ni un Franc, ni un Burgonde. Il est ce qui est sorti de la grande chaudière où, sous la présidence du roi de France, ont fermenté ensemble les éléments les plus divers. La grande chaudière, si ça pouvait encore être ça, la nation et le nationalisme aujourd'hui.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel œil mon invité d'aujourd'hui regarde-t-il le nationalisme interprété comme un repli sur soi aujourd'hui? Lui qui, après Les Piliers de la Terre et Un Monde sans fin, nous plonge dans l'Europe du XVIe siècle et fait revivre un monde mis à feu et à sang par les obscurantismes de tous bords et les guerres de religion. Une colonne de feu vient de paraître aux éditions du livre de poche Machination, humanisme, suspense, haletant. Bonjour Ken Follett.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être
enchanté
là ce matin.
D'être ici.
Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre nation, à vous? Tiens.
Moi, je suis gallois. Et quand les Anglais disent « nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous ne voulons obéir Bruxelles », moi, je dis « mais je suis gallois. Nous, les Gallois, nous obéissons Londres.
Ah » oui.
Parce que notre capitale, c'est Cardiff, où je suis né. Mais pendant des siècles, nous avons obéi Londres, donc c'est normal chez nous. Et chaque pays est un mélange, comme vous venez de dire.
Comme le disait Ernest Renan en 1892, oui.
Mais pendant le 19e siècle, bon, le nationalisme était une idéologie de liberté. Et c'était très anticolonial.
Oui.
Nationalisme. Mais aujourd'hui, non. Ça, c'est fini.
Alors comment vous l'expliquez, cette vague de repli sur soi, Ken Follett, vous qui vous intéressez beaucoup à la politique, je sais.
C'est difficile à discuter avec ces gens parce que leur croyance n'est pas logique, c'est émotionnel.
Il y a la peur en fait.
Peut-être la peur, et il faut noter que les hommes blancs, dans tout le monde, ils ont perdu beaucoup. Il y a 50 ans, un homme blanc était chez lui, il était le roi. Il peut frapper sa femme, ses enfants, les voisins ne disent rien. La police dit, ah non, on peut pas entrer dans quelque chose de domestique. À l'usine, il était un roi parce qu'il avait un syndicat très fort qui le protège et peut-être le permis de dire au patron « ta gueule
ouais. ».
Aujourd'hui, c'est tout changé. Un homme doit obéir une femme peut-être. Et il y a 50 ans, c'était impossible. Donc, les hommes blancs ont perdu beaucoup et ils se fâchent. Voilà.
Ça vous inquiète, ça?
Oui, parce que il fait des décisions, des votes qui vont, quel est le mot? Impoverish us.
Qui nous appauvrissent.
Impoverit, voilà. Oui.
Alors, ce qui est intéressant, Ken Follett, c'est que l'Europe occupe une place centrale dans votre dernier roman, l'Europe de la Renaissance, l'Europe du XVIe siècle. Elle ressemblait à quoi, cette Europe, justement?
Elle était comment?
Comme aujourd'hui, on ne peut pas... La reine Elisabeth Ière ne pouvait rien faire sans penser quelle sera la réponse du roi de France, du roi d'Espagne et du pape. Et c'est la même chose aujourd'hui. On ne peut pas être seul dans le monde d'aujourd'hui et même le monde du XVIe siècle, de la XVIe siècle.
C'est quand même une Europe où l'Angleterre joue un rôle majeur. La couronne d'Angleterre donne lieu à toutes les convoitises. On est encore, quand commence le livre, à la veille de l'avènement d'Elisabeth Ière sur le trône. Qu'est-ce que son arrivée au pouvoir va changer, en fait?
Elle a dit de suite... Elle a dit, nous serons protestantes.
La stabilité religieuse, ouais.
Oui. Mais elle, la reine Marie, qui appelée Marie de Saint, parce qu'elle a, she burned people.
Elle brûlait les gens.
Les protestants. Elisabeth a dit, je ne fais pas ça, je ne vais pas brûler des catholiques. Et elle a dit, au commencement, elle a dit, je veux que personne ne perde sa vie à cause de son religion. C'était difficile à faire ça pour elle, mais elle a essayé. Et on se fâche en toute l'Europe et le roi de France, le roi d'Espagne et le pape ont voulu le tuer. À cause de ça, elle a créé un petit département d'espions pour chercher les assassins. Et ça marchait. C'était la première service secrète de l'Angleterre.
Alors le livre raconte ça avec moult rebondissements et c'est absolument passionnant. La question religieuse, pour y revenir, elle est omniprésente dans l'Europe de l'époque, Ken Follett. Pour vous qui êtes né, je le rappelle quand même aux auditeurs, au XXe siècle, quelle importance a eu la religion dans votre éducation à vous?
Ah, chez nous, ma famille était protestante extrême.
Extrêmement stricte?
Oui, très stricte. Le Bible... On a cru que la Bible est tout à fait vrai, absolument chaque mot vrai.
Alors qu'est-ce que vous n'aviez pas le droit de faire? Qu'est-ce qui vous était interdit, par exemple?
Le cinéma. C'était à la vie de mes parents, c'était très, it was evil.
C'était le mal incarné.
Oui, voilà. Et pas de télé, pas de radio.
Ah bah, pas de radio.
C'est
un scandale, Ken. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette éducation très stricte chez vous?
Les romans. Et j'ai visité la bibliothèque locale, publique, et j'ai lu beaucoup, beaucoup. Et, chose un peu curieuse, mes parents n'ont pas regardé mes choix de livres.
Ah.
Et c'est étonnant parce que j'ai lu James Bond. Violent, sexy, tout ce que mes parents regardent comme mal était James Bond. Donc, je suppose que quand on est élevé dans une atmosphère puritain, on cherche toujours quelque chose dehors.
Quand est-ce que vous êtes parvenu, Ken Follett, à vous faire votre propre opinion de Dieu? Et je vous pose la question parce que, quelque part, c'est tout l'enjeu de votre livre.
Mais à l'âge de peut-être 16 ans, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est vrai, ça que mes parents croivent?
Vous devez être content, vos parents, dis donc.
Ah non, c'était un grand problème parce que c'est difficile à aller au contraire des choses que chez ses parents sont les plus importants. Et comme enfant et le premier enfant de ma famille, C'était très choquant pour que moi j'étais, je suis pas certain, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu ou non?
Mais aujourd'hui, Ken Follett, si vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en quoi? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie?
À mon avis, il ne faut pas avoir la foi. Il faut croire aux sciences, la biologie, la physique, ça. Ce qui est curieux, c'est que la science dit toujours, nous croyons ça probablement, mais peut-être on va découvrir quelque chose de nouveau qui change notre avis.
Oui, la science est plus modeste que la religion, oui.
Voilà. Oui. Et la religion dit, ça, c'est vrai, et si vous ne croyez pas, vous êtes mauvais.
Vous savez qu'il y en a une qui est très autoritaire dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Ken, c'est la culture. Et son actualité, qui n'a aucun sens, sans queue ni tête, erratique, abracadabrante, que se passe-t-il donc aujourd'hui lundi 4 mars?
N'oublie pas, c'est mille. Nul ne doit savoir que je suis un prince de sang. Mon image doit être celle d'un quelconque plébéien. Halt!
Dis-moi plutôt qui tu es!
Le réalisateur français d'origine mauritanienne, Med Hondo, est mort samedi. Il avait 82 ans, doubleur star, connu de tous pour être la voix française d'Eddie Murphy, Rafiki du Roi Lion et plus récemment l'âne de Shrek. Hondo était surtout un cinéaste anticolonialiste, auteur de films cinglants comme Au Soleil, sorti en 1969, qui a été présenté au Festival de Cannes il y a 2 ans dans la section Cannes Classique. Depuis plusieurs années, il travaillait à l'adaptation de La Vie de Toussaint Louverture, grande figure de la révolution haïtienne. Salut.
On est perdu.
On va entrer dans la jungle.
Par ici, le FESPACO, grand messe du cinéma africain. Le FESPACO a sacré pour la première fois un cinéaste rwandais. C'est Joel Karekezi qui repart avec l'étalon d'or pour The Mercy of the Jungle, chronique de l'absurdité de la guerre à travers le portrait de 2 soldats rwandais perdus dans la jungle. Le film offre aussi le prix d'interprétation masculine à l'acteur Mark Zynga, vu dans Dipan notamment, tandis que le prix d'interprétation féminine revient à l'incandescente Samantha Mugotsia pour son rôle dans le très beau Rafiki dont on avait parlé à ce micro avec sa réalisatrice Wanuri Kayu l'année dernière. Mise à feu annoncée une semaine avant la sortie de son très attendu 2e album, le prince noir de l'électro-française Geza Felstein a révélé Blast Off, un morceau inédit en collaboration avec Pharrell Williams. Basse 80s et voix de tête, le titre est accompagné d'un clip au noir et blond léché. Originaire de Lyon, Geza Felstein fait partie avec Jane et Charlotte Gainsbourg des artistes français programmés à l'édition 2019 du très branché festival américain de Coachella. Allez là.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
Le plomb et la plume, le couple de bandits le plus iconique des États-Unis, Bonnie Parker et Clyde Barrow, étaient aussi des poètes. L'un des textes de Bonnie qui commence par le vers, vous connaissez la vie de Jesse James, avait même inspiré à Gainsbourg les paroles de sa chanson mythique, un petit cahier dans lequel les deux amants maudits écrivaient à 4 mains sur leur vie de crime et leurs efforts sans espoir pour échapper à la capture, va être mis aux enchères en avril, accompagné d'un lot de photos inédites. Et l'écrivain britannique Ken Follett, invité de Boomerang pour la sortie en poche du 3e chapitre de sa trilogie du siècle, de sa trilogie surtout une colonne de feu. Votre intérêt pour l'histoire, Ken, comment est-ce qu'il est né, cet intérêt pour l'histoire, pour le fait historique en fait?
J'ai commencé par écrire des trailers et je me suis demandé, mais qu'est-ce que les espions font en la vraie vie? Ils cherchent des informations qui peuvent changer le résultat d'une bataille ou d'une guerre.
Donc c'est l'intérêt pour les enquêtes, en fait.
Voilà.
Et d'ailleurs, au sortir de l'université, vous êtes devenu journaliste d'investigation. Quel genre d'enquête est-ce que vous meniez à l'époque, quand vous étiez journaliste?
Je n'étais pas un journaliste de très grande distinction. Donc, je crois qu'il y a une phrase française, chiens écrasés.
Vous étiez à la rubrique des chiens, oui, écrasés. Pourquoi vous n'êtes pas resté journaliste?
J'ai, Je n'aimais pas... Il m'est arrivé que j'aime les romans, pas les journaux. Mmh. Et après 5 ans comme journaliste, j'ai commencé à écrire chez moi, les soirs, écrire des trailers. Et enfin, j'ai écrit 10 romans qui n'étaient pas bons, qui n'avaient pas grand succès. Mais enfin, j'ai écrit L'arme à l'œil et après ça...
L'arme à l'œil, que j'invite tous les auditeurs de Boomerang à lire. Évidemment, ce qui est certain, c'est que la dimension d'enquête, elle est toujours très importante pour vous en tant que romancier. Oui. En quoi est-ce que écrire un livre, c'est toujours mener une enquête pour vous?
Oui, parce que, écoutez, les histoires les plus ravissantes sont un peu difficiles à croire. Les histoires des géants, ouais. des êtres des autres planètes. Mmh. Mais il faut faire croire le lecteur et ça aide. S'il y a quelque chose qui arrive dans l'histoire qui est un peu difficile à croire, mais vous donnez les faits. Et ça a un air réel parce que la ville est décrite accurately,
avec précision.
Avec précision. L'histoire est correcte. Et ça donne au lecteur un sens de réalité.
Oui.
Et comme ça, le lecteur va croire l'histoire un peu incroyable.
En fait, à vous écouter, j'ai l'impression que vous écrivez des livres que vous avez envie de lire.
C'est vrai.
Tout simplement.
Oui, toujours, toujours. Et ce que, de l'âge de 4 ans, j'ai aimé les histoires. Je pouvais lire à 4 ans. Et ce que j'aime, c'est de me perdre dans le livre, de oublier la chambre où je suis, ma famille qui sont autour de moi, le temps, oublier le temps, les heures passent et on est dans le sixième siècle ou dans la Deuxième Guerre mondiale. On a l'impression d'y vivre.
Ou à l'époque élisabéthaine, oui. Comme dans Une colonne de feu, dont vous venez de nous dire qu'en fait, ce qui vous a donné envie de mener l'enquête, c'est la découverte de l'existence d'un service secret. À l'époque d'Élisabeth Ier, agent secret, ça vous aurait plu? Vous auriez pu être agent secret, vous?
Moi?
Oui.
Oui.
Vous avez une bonne tête d'agent secret, je peux vous le dire.
À l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé à lire James Bond, j'ai voulu être James Bond. Oh, mais malheureusement, enfin, je ne suis pas assez grand.
Mais moi, je suis sûr que vos parents savaient que vous lisiez James Bond, en fait. Peut-être même qu'ils les lisaient en cachette, les livres de Ian Fleming, Ken Follett.
Non, j'ai pas caché les livres. Peut-être ils ont cru que. C'est impossible qu'un livre fait mal. Peut-être un film peut faire mal, mais pas un livre. Peut-être, je ne sais pas.
Et qu'est-ce que vous en dites, vous dont les romans sont pleins de violence, d'intrigues et de sexualité? Vous êtes d'accord avec ça? Que les romans sont plus inoffensifs?
J'ai vu vendredi, j'ai regardé la pièce de théâtre à Danemark, musical d'une colonne de feu, en musical dans un théâtre.
En comédie musicale, on vous a adapté.
Oui, et j'étais choqué. c'est très violent.
Vos parents, ils en pensaient quoi de vos livres, justement?
Mon père, après ma sœur et mon frère, les années passent. Mes parents sont devenus un peu plus doux sur ces choses. Et mon père a aimé mes livres. Ma mère, non, à cause des mauvais mots.
Et des scènes de sexe, Ken.
Oui. Mais à l'époque, il y a quelque chose qui s'appelle Reader's Digest Condensed Books.
C'est-à-dire, en fait, des résumés, en fait. Ce sont des livres un peu plus courts, réécrits.
Ouais. Par le Reader's Digest, qui est organisation américaine très, très conservative. Et quand il résume, il, au même temps,
ils édulcorent. Ouais.
Voilà, ouais, c'est ça. Et les scènes de sexe et les mauvais mots disparaissent.
Pour continuer à parler de ça, sans édulcorer, c'est pas notre genre dans cette émission, avec un peu de transgression plutôt, de subversion, parce qu'on est comme ça dans cette émission. Allez, on se remue un peu avec un vieux blues, parce que je sais que vous aimez ça, John Lee Hooker, Shake It Baby, 1963, vous êtes sur France Inter avec Ken Follett, vous écoutez Boomerang, on est lundi matin.
Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. For me. For me. Come on, yeah. Shake it right now.
On est quelque part entre un James Bond aux cheveux neige, le roi de cœur et l'heureux locataire du 10 Downing Street, avec son air affable, son œil pétillant de petit renard sous bois, d'un chic à faire pâlir la Fashion Week, tremble Anna Wintour. Il a ce costume noir-gris, une chemise bleu clair et un pochoir de la couleur de sa chemise. L'écrivain Ken Follett, dandy de Boomerang ce matin pour la sortie en poche de son roman Une colonne de feu. Alors l'écriture, on l'a compris, Ken, elle a toujours un peu fait partie de votre vie à travers notamment votre activité de journaliste au départ. Mais quand est-ce que vous avez su que votre vie serait consacrée à l'écriture romanesque, à l'écriture de romans?
Bon, L'Arme à l'œil était un grand succès, mais c'est que un roman. Et il y a beaucoup d'écrivains qui font un bon roman et après ça, rien.
Ah ben, on est tous d'accord, le problème c'est qu'il faut que ça dure.
Donc le deuxième était Triangle, et c'était un succès, mais je me suis dit, ah mais on a acheté ça parce qu'on a aimé la Malloy. Et puis, quand le code de Rebecca était numéro un aux États-Unis, je me suis dit, ok, ça c'est arrivé, je serai écrivain maintenant.
Vous avez toujours douté comme
oui,
ça?
Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que c'est un... c'est difficile à comprendre pourquoi les gens aiment énormément cet roman et pas ça. Et aujourd'hui, après presque 50 ans d'écrire, je crois que je commence à comprendre ça.
J'ai l'impression que chez vous, Ken Follett, des œuvres d'imagination, écrire des œuvres d'imagination, c'est surtout un travail très sérieux, de longue haleine. Vous travaillez comme un fou.
Ah oui, oui, oui. C'est très sérieux. Parce que ce que j'ai, qui est très, très valable, c'est qu'il y a des millions de lecteurs qui attendent mon prochain. Et il faut... Ce que j'ai énormément peur, c'est de les... To disappoint them,
De les décevoir.
Décevoir, voilà.
Dites-moi, cette éthique du travail très rigoureux, peut-être que ça vous vient de votre éducation religieuse.
Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est ce que nous appelons en anglais the Protestant work ethic.
Oui, c'est ça, l'éthique du travail protestante. On vous connaît, Ken Follett, entre autres, pour votre roman Les Piliers de la Terre, écoulé à des dizaines de millions d'exemplaires, et dont ce livre, Une colonne de feu, est le troisième tome. Le premier témoignait de votre fascination pour tout ce qui touche à la construction. En l'occurrence, des cathédrales. Ce serait quoi pour vous le point commun entre un livre et une cathédrale, à votre avis?
Ah, bon, c'est que quand on construit une cathédrale, on fait un plan. Au Moyen-Âge, en Angleterre, il n'avait pas de papier. Donc, il a fait un parquet, a floor, oui. Un parquet, où on peut tracer avec un canif les arches, les murs de la cathédrale. Et ça, c'était le plan. Mmh. Et moi, je fais un plan du livre, du roman. Je commence avec une idée, c'est peut-être 100 mots. Et demain, je regarde, je le réécris, c'est peut-être 3 pages. Et ça continue, je me demande, qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui arrive après.
En faisant des recherches à droite, à gauche.
Qui sont ces personnes? À l'époque, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Et il me faut un an pour faire le plan du roman.
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile, en fait, pour vous dans l'écriture d'un roman?
C'est la deuxième phase. Première phase, le plan, pas difficile parce qu'on peut faire n'importe quoi. Deuxième phase, je regarde, bon, il tombe amoureux. Ça c'est tout dans le plan. Mais dans le roman, il faut se demander, mais comment? Pourquoi? Leur visage, leurs émotions, leur peur peut-être. Et peut-être l'homme, il se demande, est-ce que puis-je le embrasser, puis-je la embrasser ou non?
Ah, c'est une vraie question.
Qu'est-ce qu'elle va dire si? Et elle se demande, est-ce qu'il me trouve jolie ou non?
J'ai l'impression que pour être romancier, à vous entendre, il faut être dans le contrôle tout le temps. Il faut tout contrôler.
Ah oui, non? Ah oui. Et quelques écrivains disent les personnages prennent contrôle. Mais chez moi, ça arrive jamais. Je suis le roi.
Et vous contrôlez aussi votre traduction, parce que là, on fait semblant que tout va bien. Vous parlez français avec moi. Vous êtes quand même un romancier gallois. Ah. Et vous vous exprimez en français. Votre traduction en français, vous les contrôlez aussi?
Non, pas du tout, pas du tout. Parce que même que vous êtes très gentil, je peux parler un peu, mais écrire, c'est différent. Et je ne peux pas même juger les traductions. Et le traduction français, c'est un traduction. Et j'ai 37 langues. Mes livres sont traduits en 37 langues.
Et il y a 5 traducteurs qui sont crédités pour une colonne de feu. Qu'est-ce qu'il y a de plus français en vous, Ken Follett, en fin de compte?
Comment?
Qu'est-ce qu'il y a de plus français en vous? En quoi est-ce que vous êtes un peu français?
J'ai visité la France comme teenager.
Vous y avez vécu à Grasse dans les années 80.
Ouais. Oui, j'ai aimé de suite. J'ai aimé la France, les Français. À l'époque, il faut ne pas oublier que l'Angleterre, il y a 50 ans, il n'y a pas un restaurant bon. Pas un. On a bu pas de vin en Angleterre. Non, on a bu de la bière, des cocktails, pas mal. La bière, c'est...
C'est votre côté James Bond, ça.
Mais le vin, le champagne, c'est rare. J'ai goûté le champagne, j'ai dit, mais ça, c'est... Je vais boire ça toujours, chaque jour de ma vie.
À la question, qu'est-ce qu'il y a de plus français en vous? Il me répond, le vin et le champagne. Ken Follett, merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'une colonne de feu, traduit donc par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Breck, Odile Demange, Nathalie Gouillet-Gilbert et Dominique, a été publié aux éditions du Livre de Poche et que vous serez ce soir à 19h au Collège des Bernardins pour une rencontre exceptionnelle. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
J'aime pas la beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées, qui ne sont pas du tout funèbres.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique. Suivre l'espoir quand toi nous avons excité, et tous les goûts que tu professes. Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Au bout de deux bossins bien lourds, de larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme le velours, bistré comme la peau d'un bonze. Une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Promesse d'un visage.
D'un visage, François Annie Atlas Mountain sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec le retour de la grande, la seule, l'unique, la véritable et la mirlifique Sonia De Villers.
Merci, Augustin. Salut, à demain.